Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, comment faire l'histoire de 2019? En cette dernière soirée de l'année, est-il possible d'écrire à chaud une histoire de l'année écoulée? A priori, ces 12 mois ont été marqués par la résurgence de la politisation, dont on disait qu'elle avait disparu, la nouvelle présence dans l'espace public des questions sociales, le développement de nouvelles formes de la contestation et de prise de parole également, et un rapport au temps politique et social bouleversé. Nous en parlerons avec nos trois invités. Karine Clément sera avec nous au téléphone, elle est sociologue, chercheuse au CRESPA GTM. Elle sera sur un rond-point de Gilets jaunes de Saint-Avold en Moselle, aux côtés de Raymond, qui sera également avec nous au téléphone pour évoquer son année de Gilets jaunes, pourrait-on dire, et de manifestations. Avec nous en studio à Paris, Nicolas Delalande est historien, professeur au Centre d'Histoire de Sciences Po. Il est auteur notamment de La lutte et l'entraîne, L'âge des solidarités ouvrières, paru cette année au Seuil. Et André Guntert est enseignant-chercheur, maître de conférences en histoire visuelle à l'École des hautes études en sociale. Il tentera avec nous de nous dire comment les réseaux sociaux, comment les images ont évolué pendant toute cette année 2019.
Et ce soir, on va sortir de l'hystérie pour essayer de comprendre.
Deux grandes questions. Comment on en est arrivé là et comment sortir de là?
Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés, que des passants ou des journalistes soient menacés ou que l'Arc de Triomphe soit souillé.
L'Arc de Triomphe, symbole de la République par excellence, pris d'assaut, saccagé de l'intérieur, une Marianne défigurée, des œuvres brisées.
Je suis venu de Lyon, j'ai payé le week-end, il m'a coûté à peu près 200 euros pour venir, j'ai déjà pas d'argent. Pour venir ici, pour manifester, vous croyez que c'est pourquoi? On n'est pas là pour faire de la casse, on est là juste pour se faire entendre. Moi, je me bats pour mes droits, donc il n'y a qu'une seule manière de se révolter, c'est d'aller dans la rue, parler aussi, partager pour que les gens ne fassent pas endormir par les médias. Mais j'ai pas envie qu'on en arrive non plus à une guerre civile, quoi.
Quelques échos du 1er décembre 2018. Bonsoir Nicolas Delalande, vous êtes historien. On sait souvent que les dates ne correspondent pas toujours au début de siècle, par exemple que 1914 est peut-être le début du 20e siècle et non pas 1900. Et on se pose souvent cette question, une année commence-t-elle le 1er janvier ou commence-t-elle à un autre moment? Est-ce que par exemple on pourrait dire que l'année 2019 a commencé aux alentours du 1er décembre 2018 et de ces manifestations de Gilets jaunes à Paris sur les Champs-Élysées?
Oui, si notre question porte précisément sur l'irruption du mouvement des Gilets jaunes et l'empreinte qu'il a laissée sur l'ensemble de l'année 2019. Je dirais que l'année, comme le siècle, est une convention. On peut choisir des points de départ et d'arrivée qui sont finalement en partie arbitraires et liés aux interrogations intellectuelles et politiques qu'on lui assigne. Donc si on réfléchit évidemment au mouvement des Gilets jaunes, il va de soi que ça a été un élément extrêmement fort de l'année, qui a eu diverses temporalités, qui s'est prolongé, qui a un impact très long, et qui va continuer d'impacter fortement la société française. Mais on sait bien aussi qu'on a très tôt réfléchi à ses causes et à la manière dont il tirer ses origines, à la fois dans des décisions politiques, des mobilisations et des pétitions qui avaient été lancées dès l'automne 2018. Et moi, je pense que aussi, si on, par exemple, on joue au petit jeu de remonter un peu en arrière, ce qui caractérise les Gilets jaunes, c'est la rencontre entre effectivement une très forte sensibilité à la question des inégalités, à la question sociale qui revient sur le devant de la scène et qui se croise avec la question écologique et environnementale. Et l'automne 2018 avait commencé quand même par un événement politique qui je pense qui a beaucoup marqué, que c'était la démission de Nicolas Hulot en septembre 2018, qui était, on peut dire, c'est un épiphénomène politique, mais malgré tout c'est une voix forte qui après avoir exercé des responsabilités politiques, disait ce qu'on fait en réalité n'est pas à la hauteur du problème et en plus est injuste. Et si vous dépliez un peu les arguments, vous les retrouvez ensuite pris en charge par un mouvement social inédit, protéiforme, qui a bien sûr surpris l'ensemble de la classe politique, médiatique et des commentateurs, et qui ensuite a eu sa durée, ses transformations tout au long de l'année 2019.
André Guntert, vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférences en histoire visuelle, mais vous êtes historien au tout départ, et historien d'art. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette remontée dans le temps, faire commencer 2019 un peu plus tôt?
Oui, ça paraît tout à fait convaincant, d'autant plus que si on regarde à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire un moment où on a bien l'impression que loin de s'arrêter, la crise sociale ne fait que continuer et qu'on est clairement face à quelque chose qui s'installe dans la durée. De ce point de vue-là, il est préférable, en effet, de faire remonter au début du conflit des Gilets jaunes quelque chose qui a clairement modifié pour l'ensemble des acteurs la perception de la société, du politique et des rapports entre les gens.
Entre le pouvoir et la population, peut-être aussi. Karine Clément, qu'est-ce que vous pensez, vous qui êtes spécialiste à la fois de l'histoire des mouvements sociaux et des mouvements en Russie, mais également qui suivez depuis maintenant plus d'un an ce mouvement des Gilets jaunes et qui vous trouvez pour l'instant sur le rond-point de Saint-Avold en Moselle auprès de Raymond et d'autres Gilets jaunes qui vont fêter le réveillon sur ce rond-point?
Eh bien moi, je pense que, enfin, j'aimerais élargir un peu. Je pense qu'il y a les Gilets jaunes, mais il y a en général des révoltes populaires. On va dire le petit peuple, le bas peuple un peu partout, Chili, Haïti, d'autres pays, Hong Kong, qui se révoltent l'année passée. Et ça, je pense que ça va continuer. Et je pense que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, l'ère des peuples qui ne se révoltent contre le fait qu'ils ont de moins en moins de pouvoir. Pour la justice sociale et aussi, j'ajouterais, contre l'oligarchie qui gouverne un peu partout dans tous les pays en ce moment.
Mais cette notion d'oligarchie, par exemple, Raymond, qui vous trouvez aux côtés de Karine Clément, vous la faites vôtre aussi en tant que gilet jaune et manifestant régulièrement depuis plusieurs mois sur tous les lieux qui vous sont permis justement par le pouvoir?
Oui. De plus en plus maintenant, mais c'était pas le cas au début. Au début, la plupart d'entre nous, on est très peu politisés. On est relativement naïfs, si vous voulez, par rapport à ce qui se passe, par rapport à la façon dont on est gouverné, etc. Et ça, au fil des mois, ça a changé. Maintenant, oui, je partage cette opinion.
Ça veut dire que quand vous vous lancez, il y a plus d'un an, dans ce mouvement qui va devenir ce qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes, vous-même, vous n'avez pas cette vision politisée que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez subi, pourrait-on dire, ou connu une politisation accélérée par l'intermédiaire de ce mouvement?
Oui, je crois que c'est tout à fait ça. En fait, on est des gens ordinaires, si vous voulez, des gens qui se lèvent pour aller travailler, d'autres qui sont à la retraite, qui ont toujours été de bons citoyens avec des petits bémols autour là, et on a toujours cru ce qu'on voyait, ce qu'on entendait, et c'est seulement parce qu'on s'est retrouvés tous ensemble, en fait c'est au fil du temps, on voyait qu'on y arrivait de moins en moins et on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, et d'un coup on se retrouve tous le 17 novembre dehors des milliers rien qu'à Saint-Avold, et là on s'est dit mince, je suis pas tout seul à avoir du mal à joindre les deux bouts, et petit à petit on a regardé tout ce qui se passait autour, tout ce qu'ils faisaient avec l'argent de nos impôts, avec les profits, etc. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est arrivé petit à petit. Ça veut dire qu'on s'est politisé, on a accéléré sur 13-14 mois.
Vous l'avez vous-même perçu, Karine Clément, en tant que sociologue. Je rappelle que vous êtes spécialiste à la fois des mouvements sociaux en Russie, sur quoi vous avez longtemps travaillé, mais également vous êtes intéressé à ce mouvement naissant cette année 2019 en France.
Oui, ben je crois que c'est la clé vraiment du mouvement, c'est le fait que les gens effectivement se sont retrouvés en face à face, ont beaucoup discuté et ont réfléchi à ce qui se passait dans le pays et plus largement dans le monde. Et c'est vrai que les discussions sur les ronds-points, dans les cabanes, dans les manifestations du samedi, les discussions sont très politiques. Les gens parlent d'eux-mêmes, de leurs problèmes, etc., mais mettent en cause des problèmes qui sont politiques. La justice sociale, c'est un problème politique. La redistribution, l'impôt, combien, à qui on prend, combien est reversé, à qui, ce sont des problèmes politiques qui sont soulevés quotidiennement maintenant par les Gilets jaunes.
De votre côté, Nicolas Lelalande, vous êtes historien à la fois de l'impôt, du refus de l'impôt. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus, notamment pour votre thèse. Et puis plus récemment, vous vous êtes intéressé à la question de la création des internationales, des entraides ouvrières à la fin du 19e et du 20e siècle, ce que vous avez appelé l'âge des solidarités ouvrières. Est-ce que, justement, par ce prisme de lecture qui est le vôtre, d'historien, vous avez vu surgir ce qui était en train d'arriver, à la fois le refus d'un certain type de taxes et d'impôts, mais de l'autre côté aussi, cette question de la solidarité nouvelle née dans des lieux qui n'étaient pas habituels, à savoir les ronds-points?
Bah, oui, ça, c'est un mouvement qui évidemment se situe à la fois dans l'héritage en fait de débats et d'enjeux portant sur la juste redistribution et le rôle de l'impôt dans la réduction des inégalités, mais qu'il a pour la première fois le porté par un mouvement de masse, par des gens ordinaires, comme le disait Karine Clément, et qui se sont mobilisés sur cette question, mais se sont pas contentés d'exprimer un refus de l'impôt, mais au contraire, ont très tôt dès le mois de novembre-décembre 2018 et ensuite tout au long de l'année 2019, lié leur refus d'une certaine taxe à une demande plus large en fait de redistribution et de répartition plus juste de l'ensemble de la charge fiscale, ce qui ouvrait un débat plus large sur la question des solidarités. Et moi, si on élargit et qu'on réfléchit au point de bifurcation possible que représente ce mouvement, il y a plein d'éléments qu'on peut mentionner, le fait de rendre visibles des acteurs qui n'avaient pas la parole, de nouvelles formes de mobilisation, de nouvelles techniques de mobilisation. Il y a pour moi, du point de vue idéologique, le croisement entre cette question sociale et la question écologique environnementale. C'est quand même les deux dynamiques très fortes qui existaient indépendamment l'une de l'autre dans les années antérieures. Il ne faut pas imaginer que tout est apparu à l'automne 2018 et au cours de l'année 2019, mais je pense que l'année a marqué leur entrelacement et le fait qu'on a pris conscience que le temps de la justice sociale, le temps des inégalités et le temps de l'espèce, en fait, de l'histoire de l'espèce face à l'environnement étaient intrinsèquement liés. Et que finalement, les conflits et les problèmes sociaux qui allaient se poser étaient encore plus aigus que ce qu'ils pouvaient être par le passé, dans la mesure où ils jouent au moins sur ces deux dimensions. On pourrait bien sûr en rajouter d'autres.
Et puis, André Gunther, il y avait aussi cette dimension très particulière qui est qu'il existait auparavant les réseaux sociaux. Depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, chacun d'entre nous les pratique, ces réseaux sociaux, mais qu'ils sont apparus de façon très aiguë dans ce mouvement social, comme étant révélateurs de conflits, mais aussi de possibilités de distribuer l'information autrement.
Alors, tout à fait, c'était au fond, c'était prévu depuis longtemps dans la théorie du web 2.0, avec l'idée du journalisme citoyen, d'une information produite par les acteurs eux-mêmes. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on avait assez peu vu finalement d'exemples, en tout cas d'exemples massifs. Il y a un exemple, l'exemple le plus massif de l'émergence et de l'installation dans le débat public d'un grand thème par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ça a été MeToo d'abord. Donc quelque chose qui a été là par l'intermédiaire de témoignages et de la multiplication de témoignages. On a effectivement installé une question qui a ensuite été relayée par les grands médias. Alors, ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est par exemple très très clairement au cours de l'année 2019, l'émergence de la question des violences policières, qui était une question qui n'avait pas été traitée ni abordée ni par les grands médias et a fortiori par le gouvernement qui jusqu'à aujourd'hui refuse encore d'employer ce terme. Et donc là, on a vu comment s'est installée cette thématique. C'est passé par les réseaux sociaux, mais de façon plus précise encore, par un ensemble de documents qui sont en l'occurrence des vidéos. Et donc là, il faut être plus précis. C'est pas les vidéos, c'est pas un problème technique. Ce sont des vidéos virales, c'est-à-dire c'est un petit groupe, je dirais une trentaine sur l'ensemble de l'année. Hein, c'était donc une sélection de documents parmi les plus intéressants et les plus symboliques qui ont fait l'objet d'une discussion participative. Et c'est au terme de ce processus que, par la répétition de la thématique, la question des violences policières est venue s'installer. Elle est aujourd'hui, elle fait partie non seulement, elle fait partie du débat public, mais on se pose aujourd'hui la question d'une dérive autoritaire du régime.
Et oui, et donc on on a effectivement parmi ces hashtags, le hashtag Allo Beauvau, le fameux hashtag de David Dufresne, qui a donc fait florès, puisque effectivement chaque samedi il y avait donc la participation de David Dufresne ou de ceux qui étaient avec lui à des manifestations, et qui documentaient, comme vous le disiez tout à l'heure, les violences policières. Cela, c'est aussi quelque chose de nouveau, Karine Clément, c'est cet usage du temps. Vous êtes aujourd'hui, en ce moment même, le 31 décembre 2019, sur un rond-point à Saint-Avold en Moselle avec des gilets jaunes. On ne pouvait pas imaginer qu'un mouvement social pouvait durer de cette manière, sinon une occupation d'usine, mais dans tous les lieux du territoire, aussi longtemps, sur plus d'une année, en l'occurrence, Karine Clément.
Non, absolument pas. C'est presque miraculeux, d'autant plus que... Si on compare aux mouvements sociaux traditionnels, les Gilets jaunes n'ont pas d'organisation en tant que telle, n'ont pas vraiment un leader, n'ont pas d'organisation, et c'est donc absolument étonnant que le mouvement dure aussi longtemps. Je pense que c'est en grande partie grâce au fait que les gens se rencontrent régulièrement, se parlent, ont redécouvert cette fraternité, la famille comme ils disent, et donc ils ne sont pas prêts du tout à abandonner ce côté fraternel-là. Et je voudrais également rebondir sur la dérive autoritaire qu'on remarque en France. Moi, comparé à la Russie, je suis assez hallucinée, effectivement, de voir comment le gouvernement réagit aux manifestations, surtout des Gilets jaunes. Le LBD, par exemple, on ne l'utilise pas dans un pays comme la Russie, qui est pourtant considéré comme beaucoup plus autoritaire que la France. Donc ça pose question.
Et de votre côté, Raymond, cette façon que vous avez eue de manifester très régulièrement pendant plus d'un an, avec cette régularité, ces samedis, qui étaient d'une certaine façon attendus par les médias, bien évidemment, au tout début, ensuite attendus également par le pouvoir, avec peut-être une crainte, effectivement, de ce qu'on a appelé les violences qui étaient liées à ces manifestations, tout cela, ça a été improvisé? Vous l'avez vécu comme une improvisation de votre côté, Raymond?
Écoutez, c'est quelque chose qu'on découvrait tous les samedis, puisque on était aussi bien à la capitale pas mal de fois que dans des grandes villes de la région Est. Et ça dépend en fait comment que les forces de l'ordre réagissent. Parfois elles sont très agressives et parfois elles font leur travail de forces de l'ordre. Une chose est sûre, c'est que les Gilets jaunes n'oublieront jamais ce qu'ils ont vécu semaine après semaine au niveau des violences policières. Maintenant, quand on part manifester, simplement manifester avec un gilet jaune, on est presque sûr de rentrer avec 135 euros d'amende. On est en craint de rentrer blessé. On a la peur au ventre quand on y va parce qu'on risque de perdre un œil, parce qu'on risque d'avoir les os de la tête brisés, on risque d'être blessé par des coups de matraque, et ça arrive pratiquement toutes les semaines.
Mais il faut bien dire tout de même que au sein de ces mouvements, il y avait aussi des mouvements violents, et que ces mouvements violents se sont exprimés. Donc il y a bien la question du maintien de l'ordre. Et on peut discuter des manières de maintenir l'ordre, mais en tous les cas, il y a bien nécessité pour un État de maintenir l'ordre. Donc il y avait bien aussi, c'est un échange, cette relation entre les manifestants et les forces de l'ordre.
Ah, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ça. J'ai jamais mis tout le monde dans le même sac, si vous voulez. Ce que je reproche et ce que j'oublierai jamais, ce que je pardonnerai jamais, c'est des forces de l'ordre, certains individus dans les forces de l'ordre qui blessent gratuitement. Et ça, on le voit parce qu'on y est. Donc, ça, c'est la réalité. Après, qu'il y ait des vitrines cassées, je le vois aussi, qu'il y ait des poubelles d'incendie, je le vois aussi, mais c'est pas une raison pour crever des yeux ou casser des crânes. Vous voyez, c'est par exemple la place d'Italie, c'était la dernière fois qu'on était sur Paris, c'était un véritable piège dans lequel on était, et tenez compte du fait qu'on est des citoyens qui ne manifestent absolument pas par la violence, on est 100% pacifique. Donc c'est quand même incroyable, on peut pas oublier ni pardonner. Moi, avant le mouvement, jamais j'aurais cru que je vivais dans un pays pareil. Je pensais que que les forces de l'ordre étaient là pour me protéger, pour nous aider quand on... Non, non, là, je suis confronté à des violences qui sont vraiment graves et qui sont niées par le gouvernement. Ça, c'est encore pire.
Nicolas Delalande, ce qui est vrai, c'est que il y avait, pendant toute cette année, en tous les cas, et pas simplement pour le mouvement des Gilets jaunes, mais également ce qui est en train de se dérouler depuis maintenant un peu plus d'un an, depuis un peu plus d'un mois, avec les mouvements liés aux grèves sur les retraites, disons un nouvel usage de l'espace public. On pensait qu'effectivement cet espace public avait été en partie privatisé, en partie devenu un lieu de loisirs et qu'il n'était plus le lieu des protestations publiques, du moins si on acceptait le 1er mai des grandes manifestations lors de grands conflits, etc. Là, on voit des manifestations pour le climat de lycéens, on voit les manifestations liées au mouvement MeToo, Nous Toutes, etc., etc., sur la question des féminicides. On voit aussi la régularité des manifestations des gilets jaunes et ensuite contre les retraites. Tout cela, c'est le retour de la rue comme espace public et de protestation politique.
Et le retour de la grève, c'est-à-dire qu'il y a aussi une façon d'occuper un lieu, ici en l'occurrence, qui peut être l'espace public. Mais si on prend l'arc qui va du début du mouvement des gilets jaunes au mouvement actuel portant sur la réforme des retraites, on doit se rappeler qu'il y a un an, les Gilets jaunes étaient interprétés justement comme alors à la fois un mouvement tout à fait inédit, mais qui finalement se déployait sur fond d'une disparition ou déshérence des forces syndicales et des organisations. En décembre, depuis donc maintenant plus de 4 semaines, on retrouve un mouvement social organisé autour d'un mot d'ordre qui est la grève reconductible, qui emprunte des formes assez classiques, on peut dire, historiquement, qui redonne une certaine centralité, une place à des organisations syndicales qui semblaient délégitimées, qui en tout cas n'avaient pas su ou pas voulu s'implanter ou s'articuler au mouvement des Gilets jaunes. Et ce qui montre effectivement que au-delà, il y a la question de l'espace public, mais il y a la dimension des mouvements collectifs et des mouvements sociaux. Et là, je rejoins ce que disait Karine Clément au tout début. Évidemment, on peut le voir à travers le regard français, mais il faut l'envisager dans une perspective beaucoup plus large et globale. Et si l'année 2019 est vraiment singulière, c'est du point de vue de l'internationalisation de ces mouvements de protestation. Effectivement, alors contre les inégalités, ça, je pense qu'il y a un constat très partagé sur le degré insupportable des inégalités provoquées par des mutations du capitalisme et qui, selon les cas, ensuite vont s'articuler à diverses revendications. Et ce qui a été aussi frappant, effectivement, c'était le fait qu'elles s'articulaient à une dénonciation soit des oligarchies, soit de la manière dont fonctionnaient les systèmes constitutionnels, que ce soit en Algérie, au Chili ou ailleurs. Mais tout cela, finalement, se nourrit de formes tout à fait nouvelles, les réseaux sociaux, des mobilisations, mais d'une certaine façon, se réinvente à partir de formes plus anciennes. On a beaucoup parlé récemment des caisses de solidarité, des cagnottes, qui en fait sont des pratiques qui existaient dès le 19e siècle lorsque le mouvement ouvrier s'est constitué. C'est-à-dire que l'idée que la grève, la mobilisation est un lieu où on éprouve le collectif, la fraternité, où on va tisser des liens, évidemment politiser son engagement et son rapport à la cité, est quelque chose qui est très ancien, qui avait été décrété mort et révolu quelque part dans les années 80-90 et qui nous revient, alors pas seulement en 2019, parce qu'il y a eu le mouvement des places, il y a eu quand même beaucoup de choses dans les années 2010, mais je dirais qu'il y a plusieurs des tendances très fortes de moyen terme qui se sont croisées dans cette année et qui expliquent la centralité de ces mobilisations.
Et puis vous qui vous intéressez au 19e siècle, évidemment, Nicolas Lalande, il y a aussi le retour du timbre, vous savez, ce timbre qui était ces airs connus sur lesquels toutes les manifestations rajoutaient des paroles différentes. Voici un exemple de timbre.
France Culture. Le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
C'était en mars dernier, du côté du CHU de Valence, des aides-soignants, des infirmières qui reprenaient ce grand tube de l'année dernière qui s'intitulait donc De trois cafés gourmands, ils reprenaient avec ces paroles changées. Évidemment, il y a de la colère dans le cataterre, ça a été repris tout au long de l'année par les manifestations, les mobilisations du collectif Interurgence, mais cette chanson a été reprise aussi, André Gunther, par tout un tas d'autres manifestants tout au long de cette année, par des gilets jaunes, etc., etc.
Oui, il y a eu, comme toujours, lors de grands mouvements sociaux, une créativité étonnante, aussi bien visuelle, musicale, et voilà, on peut dire qu'il y a maintenant des chansons, des marques, des choses qui se répètent effectivement, qui sont rentrées dans le tissu social. Mais peut-être pour dire quand même un mot, parce que il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est-à-dire que aussi bien la créativité populaire que tout simplement l'acte même de la manifestation, l'occupation de l'espace public, l'autocréation de médias ou d'une médiatisation autonome, tout ça est tout de même la réponse à un déficit. Et il faut quand même d'abord décrire, ou en tout cas évoquer, le déficit, je pense, à la fois politique et médiatique, qui explique, qui est la véritable explication de tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace public et qui aurait dû se passer dans l'espace politique. Mmh. Et donc on assiste à un véritable déplacement, mais ce déplacement est une preuve, est une démonstration
d'une carence,
d'un défaut, d'un déficit, de quelque chose qui ne se passe pas alors que ça devrait se produire. Et alors moi en particulier, j'étudie les effets de médiatisation. J'étais très frappé quand Raymond disait on est sorti dans la rue, on s'est aperçu qu'on était pas tout seul. Ça, c'est vraiment la démonstration d'un déficit de représentation, non pas au sens politique, mais au sens médiatique. Et on sait bien, il y a eu entre-temps des études qui ont été faites et qui ont montré que les classes populaires sont très sous-représentées à la télévision, dans les médias. Et voilà, cette expression d'une solitude des classes populaires, je trouvais très frappante. Mmh. Voilà, de ce point de vue-là, il y a eu un véritable redressement.
Et puis, au niveau de la créativité, il y a par exemple le succès de ce « On est là » qui est toujours repris à la fois sur les ronds-points et ailleurs, et qui dit effectivement que on ne se laissera pas faire de ce côté-là. Karine Clément, vous en avez entendu des slogans?
Oui, évidemment, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas seulement le déficit de la représentation, il y a également un déficit de relations sociales. C'est-à-dire que la concurrence à tout va, l'ultralibéralisme, a conduit à ce que les gens luttent les uns contre les autres, se renferment sur eux-mêmes. C'est pas seulement le cas en France, c'est général, je pense. Et donc, des mouvements comme ça, comme les Gilets jaunes, comme ailleurs, prouvent que les gens ont besoin de s'entraider, aiment partager et se découvrent les uns les autres, se rendent dignes pour eux-mêmes quand ils partagent, quand ils s'entraident, quand ils font des choses ensemble, quand ils agissent ensemble. Et c'est à travers ça qu'ils deviennent, si vous voulez, un sujet politique, on va dire.
Oui, c'est ce que vous appelez une utopie concrète, en l'occurrence, Karine Clément. Raymond, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? J'imagine que vous êtes d'accord, puisque vous connaissez Karine Clément pour la suivre depuis un certain temps sur les lieux de manifestation du côté de la Lorraine.
Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Karine Clément et par l'intervenant avant Karine Clément. Et on a vraiment l'impression de plus être représenté. Ça, c'est certain. On a maintenant l'impression très nette qu'il n'y a plus de contre-pouvoir. C'est-à-dire que M. Macron fait ce qu'il veut. Il n'y a plus les députés.
Visiblement, il ne fait pas encore tout à fait ce qu'il veut, parce que
par rapport à ce qu'on est en train de faire. Mais je veux dire, on peut aller voir les députés comme on veut. On n'est pas représenté. Ils sont là pour appuyer sur le bouton. S'ils leur disent appuyer à gauche, ils appuient à gauche, à droite. Et ça nous convient plus. En fait, on a laissé trop longtemps un blanc-seing à tous nos élus là. On courait après nos affaires, on courait après, après la tambouille de tous les jours. Et pendant ce temps, eux, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et maintenant, il faut vraiment que ça change. Il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on s'éveille, il faut qu'on leur demande de nous rendre des comptes. On peut plus les laisser faire comme ça, ce qu'ils voulaient, parce qu'ils font rien pour nous. On voit aussi nos régions.
Vous voyez, peut-être pas exagérer tout de même.
Oui. Non, j'exagère pas. Les régions chez nous, on a les écoles qui ferment, les hôpitaux qui sont déplacés, les routes qui sont pleines de nids de poules. Tout ça, ça n'existait pas avant. On sent bien qu'en plus de pluie arriver, il y a tout qui se dégrade. Il est temps que les choses soient reprises en main par les gens qui nous gouvernent. Alors, qui travaillent pour le bien commun.
Nicolas Delalande, c'est un discours que vous avez entendu, que vous entendez aussi dans les archives, ce discours effectivement de les gens d'en haut ne nous écoutent pas, ne font plus pour nous ce qu'ils devraient faire parce qu'ils sont nos représentants. C'est la question de la crise de la démocratie représentative, mais on peut pas dire le gouvernement a tenté de répondre. En tous les cas, l'initiative du grand débat, c'était une réponse immédiate, pourrait-on dire, parce qu'il fallait réagir tout de suite. Il y a la Convention citoyenne sur le climat qui va redémarrer début janvier, donc qui est donc avec 150 citoyens tirés au sort qui réfléchissent à la question climatique dont vous parliez tout à l'heure. Ça, c'est un type de réponse, même si ça n'est pas la réponse définitive à toutes les préoccupations qui sont émises sur les ronds-points des Gilets jaunes.
Bah, je pense que je suis d'accord, tout à fait d'accord avec ce que disaient les intervenants précédents, dans le sens où il faut tenir à la fois le versant de l'histoire populaire de la révolte, de ce fort courant de politisation, de créativité, de prise de parole qui est inédit, et en même temps réfléchir aux conditions auxquelles celui-ci peut déboucher sur des formes d'action collective, je dirais au-delà des mouvements même qui y participent. C'est-à-dire qu'en même temps, on a bien conscience qu'il y a un certain grand nombre de choix démocratiques qui sont pris aujourd'hui à des échelles qui vont être étatiques, supra-étatiques, et donc ça pose malgré tout la question de la relégitimation de la décision politique. Si on peut évidemment valoriser uniquement un côté, c'est important qu'il y ait une forme de visibilisation et de politisation. En même temps, un des défis auxquels on se trouve, c'est précisément l'articulation. Alors le glissement qu'on a vu s'opérer au premier semestre de l'année, c'est cette idée que finalement, alors le constat d'une crise de la démocratie représentative du point de vue institutionnel est très ancien, et on a vu se multiplier les affaires de conflits d'intérêts, de scandales, et évidemment, je dirais que l'image, la réputation des parlementaires ou du personnel politique ne s'est pas améliorée au cours de cette année. Et on a eu cette idée, effectivement, qui était portée en partie par les Gilets jaunes, qui était aussi plus ancienne, d'une forme de démocratie participative ou d'insistance sur de nouvelles modalités de consultation et de prise de décision. Donc je pense qu'un des grands thèmes aussi qui est bien ressorti, au-delà du RIC, qui était une des grandes propositions du mouvement, c'est notamment tout l'intérêt pour le tirage au sort. On voit que là aussi, la réflexion sur le tirage au sort comme mode de composition d'assemblée pouvant délibérer et prendre des décisions...
Qui était déjà antérieure, parce que cette réflexion remontait déjà à la contestation du référendum de 2005, par exemple.
Tout à fait, mais en termes de... Dans la théorie politique, dans les expériences pratiques même, c'est très antérieur, donc tout n'a pas été inventé en 2019. En revanche, effectivement, il y a eu une obligation de la part des pouvoirs public et des élites politiques de finalement tenter d'apporter des réponses. Alors il y a eu l'épisode qui était quand même, alors je ne sais pas ce qu'on en retiendra, mais qui était quand même assez étonnant, qui a été une forme de sortie de la crise la plus forte du grand débat, mais qui en même temps était surtout une sorte de voyage présidentiel dans le pays qui a rappelé les pratiques du 19e siècle, qui avait été
les grands voyages des présidents.
Les grands voyages pour aller au contact des populations et des notabilités. Et puis effectivement, il y a les formes plus innovantes, et là je dirais tout est devant nous, si on va voir ce que ça donne, la fameuse convention citoyenne, 150 citoyens tirés au sort, et qui d'ailleurs ont demandé plus de temps, c'est intéressant, ils vont prolonger leur débat jusqu'au mois de mars-avril prochain, avec cette idée que les propositions qu'ils vont soumettre devraient être adoptées telles quelles. Donc tout l'enjeu, il est précisément là, c'est-à-dire est-ce qu'on se dote de moyens de délibération et de décision collective qui permettent de voir déboucher ces aspirations collectives.
Oui, et puis il y a quelque chose de nouveau, vous qui regardez les médias, et en particulier les médias électroniques, André Gunther, c'est toute la question de la répétition qui a créé des séries et qui fait qu'au bout d'un certain temps, eh bien, vous l'avez dit tout à l'heure pour les violences policières, le sujet émerge, mais c'est vrai aussi de la question des féminicides pendant toute cette année 2019. C'est vrai aussi de la question des incendies qui se déclenchent un peu partout sur la planète et qui permettent, par la répétition là encore, de montrer qu'il y a une question climatique en débat.
Oui, je crois qu'il y a un point commun, par exemple, entre l'émergence de la question des violences policières à travers les vidéos des Gilets jaunes et par exemple, les images de méga incendies, d'incendies géants qui se... qui se multiplie là aussi tous les étés maintenant régulièrement, donc là cette année en Californie, au Brésil, en Afrique, maintenant en Australie. La question du réchauffement a changé de nature, c'est clairement plus une menace pour un futur lointain, mais véritablement quelque chose qui doit s'inscrire dans le présent et qui est ressenti aujourd'hui comme tel par une grande partie de la population. Il y a eu des sondages intéressants à ce titre. Et donc, ce qui est important, c'est de voir que la répétition des images fait émerger des questions qui étaient justement évitées dans le traitement médiatique. C'est-à-dire que la question du réchauffement, elle reste encore très timidement abordée par les grands médias, et on a l'impression que la société civile est en avance sur cette perception, et se fait en quelque sorte son information tout seul avec les images, avec la mise en série des images qui crée une mise en perspective et qui produit une réalité qui n'est pas discutée d'une autre manière.
Karine Clément, vous qui travaillez à la fois sur la Russie et sur la France, sur les mouvements sociaux, sur les protestations telles qu'elles sont émises dans ces deux sociétés, est-ce que vous avez quelques problèmes pour vous rendre parfois en Russie, comme très récemment justement parce que on ne veut peut-être pas toujours y entendre ce que vous voulez dire. Est-ce que cette comparaison vous paraît utile? Vous avez commencé cette émission en nous disant il faut réfléchir à ce cas français, mais également à tous les cas qui se développent un peu partout. Et comme Nicolas Delalande, vous avez parlé de ces protestations qui sont un peu partout sur la planète. Est-ce que vous pensez justement qu'il faut sortir d'un cas français et réfléchir de façon plus globale à ce qui s'est passé en 2019?
Oui, absolument. Enfin, je sens, y compris en Russie, qui n'apparaît pas, en tout cas vu de France, comme une société très très mobilisée, je sens très bien dans mes enquêtes ces derniers temps un frémissement et un sens critique très très de plus en plus développé, notamment qui porte sur la dénonciation de l'injustice sociale. Donc, si ça concerne même la Russie, je pense que cette dénonciation, cette critique sociale, sans doute, est présente dans de plus en plus de pays, au-delà du cas français. Mais je voudrais rebondir sur le déficit démocratique, si vous me permettez.
Allez-y.
Parce que
brièvement.
Je pense qu'il y a aussi le problème de l'absence du déficit de contre-pouvoir. Hein. La gauche et la droite, en tout cas du point de vue des gens, c'est du pareil au même. Les syndicats, du point de vue de beaucoup de gens, ne font, en tout cas si on parle des centrales, enfin de la, des dirigeants, ne font plus leur travail. Donc c'est vraiment une mobilisation d'en bas pour essayer de contrôler ce qui se fait en haut, au moins ça. Voilà. Et il me semble que les gens essayent là maintenant de trouver des moyens de contrôler le référendum, d'autres choses, pas seulement les élections, pas seulement au travers des représentants. Enfin, ils essayent d'imaginer d'autres formes de contre-pouvoir.
Raymond, un dernier mot. Vous imaginez que le mouvement dans lequel vous êtes entré très tôt, depuis plus d'un an maintenant, puisse continuer encore longtemps, se transformer, atteindre d'autres buts, brièvement?
Oui, tout à fait. Brièvement, le mouvement, il est en continuelle mutation. Donc, dire vers où il va se diriger, ça c'est difficile. Mais qu'il continuera, oui, ça c'est certain qu'il continuera. Et je suis content qu'il ait existé, parce que j'ai fait des belles rencontres. Il y a plein de belles personnes autour de nous. C'est la fraternité, on l'a retrouvée.
Merci à vous, merci et donc bon réveillon sur ce rond-point de Saint-Avold en Moselle où vous vous trouvez tous les deux, Karine Clément et vous-même Raymond. Merci à vous Nicolas Delalande et André Gunther d'avoir voulu bien accepter de jouer justement ce jeu, de réfléchir historiquement à ce qui s'était passé en 2019. Si vous voulez continuer la réflexion au point de vue international, vous pouvez écouter Culture Monde demain sur France Culture, comment le monde a changé en 10 ans avec Bertrand Badi, c'est le deuxième volet d'une série et demain ils parleront dans Culture Monde, des printemps arabes à la chute de Daesh. Et pour notre part, nous continuerons un autre feuilleton demain dans le temps du débat entre 18h20 et 19h. Nous nous demanderons, eh bien, est-ce que l'année 2020 est bien l'année du Brexit? On a feuilletonné toute l'année sur ces questions du Brexit. Enfin, le Brexit, c'est le titre de l'émission de demain. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Antoine Tricot, Benjamin Teinturier, Louise André, Fanny Richer, Rémi Baille et Hugo Boursier. À la technique aujourd'hui, Jérémy Kaufmann. À la réalisation, Alexandre Manzanares. Qu'à 20h, vous pourrez écouter sur France Culture les vœux du président de la République commentés par la rédaction de France Culture. C'est entre 20h et 20h30. Et à 20h30, vous retrouverez le deuxième épisode de votre feuilleton, la cinquième saison du feuilleton 57 rue de Varennes, où on parle évidemment d'un président, mais également d'un premier ministre aux prises avec la politique de tous les jours. Il est 19h sur France Culture, l'heure du rappel des titres.